Jean qui grogne et Jean qui rit, par la comtesse de Ségur. Deuxième cassette, deuxième face, page 52. Chapitre 6. Jean Esculape. E-S-C-U-L-A-P-E. Esculape était le dieu de la médecine pour les Grecs autrefois. Jean Esculape veut dire tout simplement Jean médecin, Jean docteur. Vers le milieu de la nuit, Jean fut réveillé par l'agitation extraordinaire de Kersak qui geignait, se retournait, soufflait comme un buffle et finit par dire à mi-voix « N'aurait pas dû renvoyer Jean, il m'aurait soulagé peut-être. « Me voici, monsieur, » dit Jean en s'approchant du lit de Kersak. « Qu'avez-vous ? » ?»«
Comment ? Toi ici ? Depuis quand es-tu là ?»«
Je n'en suis pas sorti, monsieur. J'ai seulement fait semblant. »« Mais vous souffrez, monsieur. Que puis-je faire pour vous soulager ?»«
Je souffre horriblement de mon pied foulé, mon pauvre Jean. »
« Et que faire maintenant, au milieu de la nuit ? Tout le monde est couché, il faut attendre au jour. »« En attendant le jour, qui sera long à venir, monsieur, dit Jean, je vais pouvoir vous soulager peut-être. Quand il y avait une foulure dans le village, c'est à moment qu'on venait, et on était guéri en peu de temps. Vous allez voir, je vais vous masser le pied foulé comme faisait maman, et comme elle m'a montré à le faire. » Dans une demi-heure, vous ne sentirez plus le mal. » Malgré la résistance de Kersak, qui n'avait pas foi dans ce remède, Jean s'empara du pied douloureux, et quoiqu'il fût dans l'obscurité, il put employer le massage avec le plus grand succès, car au bout de trois quarts d'heure, le pied, dégonflé, n'occasionnait plus aucune souffrance, et Kersak dormait profondément. Lorsque Jean vit l'heureux effet qu'il avait obtenu, il recouvrit avec précaution le pied, presque entièrement dégonflé, se recoucha sur ses trois chaises et dormit si bien qu'il ne s'éveilla qu'au bruit qui se faisait dans la maison. Il faisait grand jour depuis longtemps. L'horloge de la salle sonna 6 heures. Jean sauta à terre et vit Kersak qui le regardait.
« J'avais hâte de te voir réveillé, mon petit Jean. » Pour te remercier du bien que tu m'as fait.
C'est que j'ai dormi tout d'un trait depuis que tu m'as enlevé mon mal. Cela va-t-il réellement bien, monsieur ?
Ma foi, oui. J'ai encore quelque chose, mais ce n'est rien auprès de ce que j'avais hier. Sais-tu que tu es un fameux médecin ?
Il faut, monsieur, que vous me laissiez faire encore un massage, sans quoi l'enflure reviendrait et la douleur avec.
Tout ce que tu voudras. Ah, j'ai confiance en ta médecine.
Jean reprit le pied malade et commença à le masser. Au bout d'un quart d'heure, Kersak voulut se lever, disant qu'il se sentait tout à fait guéri. Mais Jean voulut continuer et ne cessa que lorsque le pied, entièrement désenflé, ne fut plus du tout douloureux. Kersak se leva, posa le pied par terre, avec crainte, avec hésitation, mais ne sentant rien que de la faiblesse, il voulut se chausser. Jean lui dit qu'il fallait bander le pied, sans quoi la cheville pourrait tourner et l'enflure reparaître. Il alla demander une bande de toile à la maîtresse de l'auberge, qui la lui donna avec empressement. Jean banda habilement le pied de Kersak. « À présent, monsieur, dit Jean, vous pouvez marcher. »«
Tu crois ? Ça m'étonne. »«
Essayez, monsieur, vous allez voir. » Kersak essaya, tout doucement d'abord, puis plus franchement. Enfin, il s'appuya sur son pied comme avant l'accident.
« Mais c'est merveilleux ! C'est admirable, mais je ne souffre plus du tout, du malaise seulement, pas autre chose. Kersak essaya de marcher. Il descendit dans la cour, entra à l'écurie, et à sa grande surprise trouva Jeannot qui s'occupait du cheval et qui avait eu la bonne pensée de lui donner de l'avoine pour l'occuper agréablement pendant qu'il s'en occupait. « Comment ?» dit Kersak. « Mais c'est très bien, Jeannot. Je ne m'attendais pas à te voir si empressé. Continue, mon garçon. Jean m'a si bien guéri avec son massage que je vais repartir dans une heure pour ma ferme de Sainte-Anne. » Puis, se retournant vers Jean, il continua. « Je regrette beaucoup, mon brave et excellent garçon, de ne pas t'emmener avec moi. Mais je ne t'oublierai pas. Et toi, de ton côté, n'oublie pas Kersak, le fermier de Sainte-Anne, près de Vannes, V-A-2-N-E-S. C'est une ville de Bretagne. Si jamais tu as besoin de gagner ta vie, ou s'il te faut quelque argent ou n'importe quoi, rappelle-toi que Kersak a de l'amitié pour toi, qu'il te veut du bien et qu'il sera très content de pouvoir te le témoigner. Je vais parler à l'aubergiste pour mon marché de porc et je reviens. » Il y alla effectivement, mais il ne put rien conclure. La marchandise était trop chère. Il trouva plus avantageux de prendre tout ce qui restait de petits cochons à vendre à Kermadio. Il revint trouver Jean et Jeannot. « Voilà mon cheval qui est prêt, dit-il, déjeunons pendant qu'il termine son avoine, puis nous le ferons boire et nous l'attellerons une demi-heure après. » Kersak commanda 3 cafés au lait pour le petit déjeuner et il rentra dans sa chambre avec Jean. Tous deux étaient sérieux. « Tu ne ris pas aujourd'hui, Jean, dit Kersak.
Non, monsieur, je n'ai pas envie de rire. Je ferais plutôt volontiers comme Jeannot. Je pleurerais.
Bah pourquoi cela ?
Parce que je suis triste de vous quitter, monsieur. Vous avez été si bon pour moi et pour Jeannot. Est-ce que je vous reverrai jamais ? C'est ça qui me chagrine. Ça serait dur de ne jamais vous revoir.
Jean leva sur Kersak ses yeux humides. Kersak lui caressa la joue, le front, mais il garda le silence. Jeannot entra joyeusement avec le café, le lait, les tasses et le pain. Il semblait avoir changé d'humeur avec son cousin. Son visage était souriant, tandis que celui de Jean était triste. Ils se mirent à table. Jeannot, seul, parlait et riait. Quand le déjeuner fut achevé, Kersak se leva pour faire boire son cheval, mais Jean ne voulut pas le laisser faire, de peur qu'il ne fatiguât son pied encore sensible. En attendant le moment d'atteler, Jean se mit à causer avec Kersak.
« Monsieur, dit Jean, si vous aviez une occasion pour qu'est-rentrer, vous ferez donner de nos nouvelles à maman, n'est-ce pas ? Cela me ferait bien plaisir. »«
Non, certainement, mon ami, dit Kersak, je ne lui en ferai pas donner, mais j'irai moi-même lui emporter. »«
Vous-même ? Oh, monsieur, que je vous remercie ! Pauvre maman, comme elle sera contente. Vous demanderez la femme Hélène Dutec, D-U-T-E-C. On vous y mènera. C'est sur la route, une petite maison isolée, entourée de lierre. Et puis, monsieur, voulez-vous dire à maman qu'elle m'écrive et qu'elle me donne de vos nouvelles ? Je serai bien content d'en avoir. »
Il était temps d'atteler. Jean aida Kersak une dernière fois. Au moment de se séparer, Kersak dit aux deux cousins. « J'ai une idée. Montez dans ma voiture, je vais vous mener à la gare du chemin de fer. Ça vous abrégera votre voyage. »«
Comment cela, monsieur ?» dit Jean.
« Montez toujours, je vais t'expliquer cela tout en marchant. » Quand le cheval fut au trot, Kersak prit la parole.
« Voilà ce que je veux faire. Tu te souviens que j'ai fait une bonne affaire de petits cochons à Vannes. Je vais prendre sur mon gain, sur mon bénéfice, la petite somme nécessaire pour payer ta place et celle de Jeannot jusqu'à Paris. De cette façon, je serai plus tranquille. Je n'aimais pas, Jean, à te savoir sur les grandes routes avec si peu d'argent, un si long voyage devant toi et, il faut le dire, tant de garnements mauvais que l'on est exposé à rencontrer. Un pauvre enfant, ça n'a pas de défense. Jean remercia Kersak sans trop comprendre le service qu'il lui rendait, mais devinant que c'en était un fort important. Kersak leur expliqua les temps d'arrêt du chemin de fer, les imprudences qu'il fallait éviter. Il s'assura qu'ils avaient de quoi manger dans leur petit paquet de Kérentré et d'Auray et que leur bourse était suffisamment garnie. Ils arrivèrent à la gare. Kersak donna son cheval à garder à un des garçons de l'auberge. Il prit des billets pour Jean et Jeannot, leur recommanda de ne pas les perdre parce qu'il faudrait les payer une seconde fois. Il connaissait les employés. Il recommanda Jean et Jeannot au chef de train qui les emmenait, embrassa Jean, serra la main à Jeannot et demanda au chef de train de bien les placer et de ne pas les oublier en route et à leur arrivée. Jean, surpris et occupé de ce qu'il voyait et entendait, pensa moins au départ de Kersak.
« En voiture, messieurs les voyageurs, en voiture !» crièrent les employés. Clac, 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 clac. Les portières se fermèrent. Quac, tout.
Était parti emmenant Jean et Jeannot à Paris. Chapitre 7. Visite à Kérentré. Pendant que Jean et Jeannot avançaient avec une vitesse dont ils n'avaient eu jusque-là aucune idée, Kersak roulait vers son domicile aussi vite que son cheval pouvait le traîner. Il arriva à Vannes et s'y arrêta 2 heures pour régler la livraison de ses petits cochons. Il promit d'envoyer prendre le reste le lendemain. Puis, pensa-t-il, je pousserai jusqu'à Kermadio. Je ferai affaire pour le reste de leurs petits cochons et je reviendrai par Kérentré pour voir la mère de Jean. Si je pouvais trouver en route une fille de ferme, j'en serais bien aise. Mon temps aura été bien employé de toute manière. Kersak fit comme il l'avait dit, malgré l'enflure et la douleur aux pieds qui étaient un peu revenus et qui gênaient ses mouvements. Il fit des marchés avantageux à Kermadio. Le propriétaire était large en affaires et se contentait d'un gain fort restreint. Il reprit ensuite le chemin de Kérentré et ne tarda pas à y arriver et à trouver la maison d'Hélène, qu'il devina au premier coup d'œil d'après la description que Jean lui en avait faite. Voyant au bord de la route, près d'un bouquet d'arbres, une maisonnette entourée de lierres, il arrêta son cheval et s'adressant à une jolie petite fille de 5 à 6 ans qui jouait devant la maison. « N'est-ce pas ici que demeure la veuve Hélène Dutec ?» La petite fille se releva, le regarda en souriant et répondit «
Je ne sais pas, monsieur. »
Comment tu ne sais pas? Tu n'habites pas ici?
Oui, monsieur, je suis très contente. Je ne pense plus à maman.
Sais-tu où est la maison du petit Jean?
Oui, monsieur, c'est ici. Je couche dans son lit. C'est la maman de Jean qui l'a dit.
Mais c'est donc la femme Hélène Dutec qui demeure ici.
Je ne sais pas, monsieur.
C'est elle qui est ta maman, je suppose. Puisque tu couches dans le lit de ton frère.
Je n'ai pas de maman et j'en ai pas mon frère.
Oh, tiens, trop de petite fille, on ne comprend rien à ce qu'elle dit. Ça doit être la maison de Jean. J'aurais plutôt fait descendre et d'y voir moi-même.
Kersak descendit de sa carriole, alla attacher son cheval à un des arbres qui se trouvait près de la maison, entra, ne vit personne et sortit par une porte des derrières qui donnait sur un petit jardin. Il aperçut une femme qui sarclait une plante de choux.
Ma bonne dame, savez-vous où demeure la femme Hélène Dutheck ? La femme se releva vivement.
C'est moi, monsieur. Vous venez sans doute pour la petite fille.
Pas du tout. C'est pour vous que je viens. Je l'ai promis hier à mon bon petit Jean et je viens vous donner de ses nouvelles.
Jean, mon cher petit Jean, mon bon petit Jean, entrez, entrez, monsieur. Je suis heureuse de vous voir, d'entendre parler de mon enfant.
Et de grosses larmes roulaient de ses yeux pendant qu'elle faisait entrer Kersak et qu'elle cherchait un escabeau pour le faire asseoir.
Excusez, monsieur, si je vous reçois si mal. Je n'ai pas mieux que ce méchant escabeau à vous offrir.
J'y suis très bien, ma bonne dame. J'ai quitté Jean et Jeannot hier matin à Malensac, à 15 lieues d'ici, 60 kilomètres. Ils allaient à merveille.
15 lieues ? Comment ont-ils pu faire tant de chemin dans leur journée ? J'ai vu hier un monsieur qui les a quittés à Auray à 10 heures du matin.
Je les ai un peu aidés, pour dire vrai. J'ai une ferme près de Sainte-Anne, j'allais à Vannes, je les ai fait monter dans ma carriole. De Vannes, j'allais à Malensac. Cela les a encore avancés de 6 lieues, 24 kilomètres. Nous y avons couché. Je les ai embarqués en chemin de fer. Ils sont arrivés ce matin vers 4 heures à Paris.
Déjà ? Arrivés à Paris ? Comment c'est-il possible ?
Je vais vous expliquer cela, ma bonne dame Hélène. Ils sont avec Simon à l'heure qu'il est. Kersak lui raconta tout ce qui s'était passé entre lui, Jean et Jeannot, sans rien omettre, rien oublier. Hélène écoutait avec avidité et attendrissement le récit de Kersak. Il parlait de son petit ami Jean avec une chaleur, une amitié qui touchèrent profondément sa mère et la firent pleurer comme un enfant. Quand il arriva à la fin de son récit et qu'il expliqua comment il avait payé leur place en chemin de fer jusqu'à Paris, Hélène n'y tint pas. Émue et reconnaissante, elle saisit la main de Kersak et la serra dans les siennes et contre son cœur.
« Que le bon Dieu vous bénisse, mon cher monsieur. Qu'il vous rende ce que vous avez fait pour mon bon petit Jean et pour Jeannot. »
« Oh ! Quant à celui-là, ma bonne dame, vous n'avez pas de remerciements à m'adresser, car ce n'est pas pour lui, ni par charité que je l'ai traité comme notre petit Jean, mais pour faire plaisir à Jean. C'est un brave enfant que vous avez là, madame Hélène, et j'ai bien envie de vous le demander. »
Pourquoi faire, monsieur ?
Pour le garder chez moi, à ma ferme.
Il est encore bien jeune, monsieur. Son frère Simon l'a demandé pour un service avantageux et plus facile. Quand il sera plus grand et plus fort, je serai bien satisfaite de le voir chez vous, monsieur.
S'il ne se plaît pas à Paris et qu'il préfère la campagne, vous m'avertirez, ma bonne dame. J'ai dans l'idée qu'il a de l'amitié pour moi et qu'il n'aurait pas de répugnance à entrer à mon service.
Cela ne m'étonnerait pas, monsieur. Et si son frère Simon n'avait pas compté sur lui et ne lui avait pas par avance assuré une place, je me serais trouvée bien heureuse de le savoir chez vous et si près de moi. »
La petite fille qui entrait dit alors
« Maman Hélène, j'ai faim !»«
Qu'est-ce donc que cette petite ? Jean ne m'en a pas parlé. » »«
Il ne la connaît pour ainsi dire pas, monsieur. »
Hélène donna un morceau de pain à l'enfant et raconta à Kersak sa rencontre avec la petite fille la veille du départ de Jean.
« J'étais bien désolée, monsieur. » Quand je me suis vue cette petite fille sur les bras, moi qui venais d'envoyer mon pauvre enfant, mon cher petit Jean, parce que nous n'avions plus de quoi vivre, il ne demandait qu'à travailler. Mais dans notre pays, il n'y a guère d'ouvrage pour les enfants. Quand je rentrais chez moi après avoir quitté mon petit Jean et Jeannot, je priais bien le bon Dieu de venir à mon secours. La petite fille s'éveillait, elle demandait à manger. Je remis sur le feu le reste du lait de Jean. Il n'avait guère mangé, pauvre enfant. Quoique il eut l'air résolu et riant. Je voyais bien de temps à autre une larme qui roulait sur sa joue. Il me la cachait, et il croyait que je ne la voyais pas, et que je n'en versais pas moi-même. »
Hélène cacha son visage dans ses mains. Kersak l'entendit sangloter. « Voyons, ma bonne dame Hélène, ayez courage. Votre enfant n'est pas malheureux. Le bon Dieu lui est venu en aide. »
En vous envoyant près de lui comme un bon ange, c'est vrai, monsieur. Et puis, avant vous, un autre homme du bon Dieu l'avait prise en pitié. Ce bon monsieur est venu me voir. Il m'a apporté 20 francs de la part de mon pauvre Jean. Comme si Jean n'avait jamais eu 20 francs dans sa bourse. Il m'a fallu les prendre, sous peine d'enfoncer ce bon monsieur.
Oui, Jean m'a raconté cette rencontre du prétendu voleur.
Les 20 francs sont venus bien à propos, monsieur. Pas pour moi, car j'ai l'habitude de vivre de peu.
Pauvre femme.
Mais c'était pour la petite fille, monsieur. Avec 20 francs, j'ai de quoi la nourrir pendant 6 semaines. Et il faut espérer que les parents viendront la réclamer avant que les 20 francs soient mangés.
Vous inquiétez pas de la petite fille, ma bonne dame Hélène. J'y pourvoirai.
Vous, monsieur ? Mais vous ne me connaissez pas, vous pouvez croire.
Si fait, je vous connais. Je vous connaissais avant de vous avoir vu. Et à présent, je vous connais comme si nous étions de vieux amis. Je reviendrai vous voir. Je cours souvent le pays pour les besoins de ma ferme. Je passerai par chez vous toutes les fois que j'aurai du temps devant moi. Au revoir donc et prenez courage. Je suis content de vous laisser calme. Ça me faisait mal de vous voir pleurer. Kersak fit un salut amical à Hélène, caressa la pauvre petite fille abandonnée à laquelle il s'intéressait déjà et alla détacher son cheval. Il monta dans sa carriole et s'éloigna rapidement. Hélène le suivit longtemps du regard. Puis elle rentra, soupira et leva les yeux au ciel.
Merci, mon Dieu et ma bonne Sainte Vierge. Vous m'avez envoyé un protecteur pour mon petit Jean et du pain pour cette malheureuse enfant.
Et elle se remit à son rouet. Chapitre 8. Réunion des frères. Kersak pressait le pas de son cheval. Il était tard. Je suis resté trop longtemps chez cette pauvre femme, se disait-il. Je voyais que ma présence la consolait. C'est comme si elle avait eu Jean auprès d'elle. Pauvre mère. C'est pourtant terrible d'envoyer son enfant faire 120 lieues, 480 kilomètres à pied, seul, presque sans argent, pour arriver à Paris, où tant de jeunes gens se perdent et meurent de faim. J'irai la consoler, je lui parlerai de Jean. C'est une charité. Et je donnerai de ces nouvelles à... Imbécile que je suis, s'écria-t-il. J'ai oublié de demander à Jean son adresse. C'est Tibette. Où le trouver dans ce grand diable de Paris? Oh, la mère doit le savoir. Je lui demanderai quand je la reverrai. Rassuré par ses pensées, il songea à ses affaires et calcula dans sa tête le gain de sa journée. Il était considérable. Et Jean et Jeannot, où étaient-ils? Que faisaient-ils? Ils étaient arrivés vers 4 heures du matin à Paris, reposés et enchantés. Descendus de wagon, ils ne savaient pas où aller. Il faisait encore nuit. Le chef de train, qui était bonhomme, les retrouva dans la salle des bagages où ils avaient suivi les voyageurs et leur demanda où ils allaient. « Chez mon frère Simon, monsieur, » dit Jean. « Mais il est trop matin et puis il ne nous attend que dans un mois. » Et puis, nous ne savons pas le chemin. Savez-vous où il demeure ? Demanda le chef de train. Oui, monsieur, rue Saint-Honoré, numéro 263. Eh bien, dit le chef de train, restez ici jusqu'à 5 heures du matin. Vous irez alors chez Simon. Mais comme vous ne trouveriez jamais votre chemin tout seul, voici 3 francs que m'a donné monsieur Kersak pour vous nourrir en route. Comme vous ne les avez pas dépensés, puisque vous avez vécu de vos provisions et bu de l'eau, vous prendrez sur ces 3 francs 1 franc 50 centimes pour payer le fiacre, c'est-à-dire la voiture à cheval qui remplaçait les taxis à cette époque-là où les autos n'étaient pas inventées, le fiacre dans lequel je vous ferai monter. À présent, j'ai affaire, je vous quitte, attendez-moi là. Jean et Jeannot s'assirent sur une banquette. Jean s'amusait beaucoup à regarder les allants et venants. Il remarquait tout et s'intéressait à tout. Jeannot bâillait et soupirait.
Qu'allons-nous devenir, Jean, au milieu de tout ce bruit? Nous ne trouverons peut-être pas Simon, alors où irons-nous et que ferons-nous?
Mais pourquoi ne trouverions-nous pas Simon, puisqu'il demeure rue Saint-Honoré, numéro 263?
Mais si nous ne le trouvons pas?
Eh bien, alors nous le chercherons.
Et où le chercherons-nous? À qui le demander?
Il se trouvera bien quelque brave homme qui nous aidera à le trouver. D'ailleurs, Jeannot, ce que tu dis là est ingrat pour le bon Dieu. Vois comme il nous a protégés. Ce bon monsieur voleur qui nous donne de l'argent.
À toi, pas à moi.
C'est-tu pas la même chose? Tu sais bien que tant que j'en aurai, tu en auras. Après le bon monsieur, nous avons eu la chance de rencontrer cet autre brave monsieur Kersak, qui a fait pour nous comme aurait fait le bon Dieu.
Oui, joliment, il m'a donné deux coups de fouet.
Bon, deux petits coups de rien du tout, et c'était par bonté encore.
Comment par bonté? T'appelles ça de la bonté, toi?
Certainement, puisque c'était pour te rendre plus gentil. Et il y est arrivé tout de même. Ce bon monsieur Kersak qui nous fait faire 12 lieues, 48 kilomètres en carriole.
Bon, parce que ça l'amusait de causer.
Pas du tout, ça ne l'amusait pas. C'était par bonté. Puis il nous fait dîner avec lui, petit déjeuner avec lui. Il nous paye notre coucher.
Moi, coucher pas cher. De la paille dans une écurie.
Est-ce que nous avons si bien que ça chez nous, dit Jean?
Puis il nous paye notre voyage. Il nous fait arriver à Paris en 24 heures, une journée, au lieu de 30 jours. C'est à n'y pas croire.
Oh oui, quant à ça, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une bonne chose.
Mais que
ferons-nous si nous ne trouvons pas Simon?
Allons, allons, voilà que tu vas recommencer la même histoire. Je te l'ai déjà dit, nous le chercherons et nous finirons bien par le trouver. Jeannot n'avait pas l'air bien rassuré et il recommençait à geindre lorsque le chef de train entra. « Vous voilà, dit le chef de train, c'est bien, venez, suivez-moi, vite, je suis pressé. » Il sortit précipitamment, suivi des enfants qui ne le quittaient pas des yeux, tant ils avaient peur de s'en trouver séparés. Ils arrivèrent à la place de la gare, sur le boulevard Montparnasse. Le chef de train les fit monter dans un petit fiacre et donna l'ordre au cocher de les mener rue Saint-Honoré, numéro 263. Pour plus de précaution, « Donnez-moi votre numéro, dit-il au cocher. S'il arrive quelque aventure aux enfants, c'est vous qui en serez responsable. Ainsi, gare à vous. »«
Ben, soyez tranquille, dit le cocher. Je les débarquerai sans accident, j'espère bien. »«
Vous dites, rue Saint-Honoré, numéro 263. » Le cocher remonta sur son siège. « Adieu, monsieur, et merci !» cria Jean au chef de train. Fin de la deuxième piste de la deuxième cassette, page 68, Jean qui grogne et Jean qui rit, par la comtesse de Ségur. Change de cassette.